Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Il est 13h sur Europe 1.
Et un nouveau point sur l'information avec Céline Kallmann.
L'onde de choc de l'affaire Tapie et l'État qui passe à la vitesse supérieure. Le gouvernement va bientôt engager un recours en révision contre l'arbitrage dont a bénéficié en 2008 Bernard Tapie dans son litige avec le Crédit Lyonnais. La décision qui intervient après la mise en examen pour escroquerie en bande organisée du PDG d'Orange, Stéphane Richard. D'ailleurs, l'État actionnaire d'Orange a annoncé la tenue d'un conseil d'administration dans les prochains jours pour décider des conséquences de cette mise en examen. Un recours en révision, c'est ce que réclame depuis le début François Bayrou.
Que l'État demande un recours en révision de cet arbitrage, c'est vraiment la moindre des choses qu'il pouvait faire. À mon goût, ça aurait même dû être fait depuis longtemps. Ça aurait même dû être fait depuis l'origine. Je suis allé en justice pour essayer que la justice oblige à un recours. Et évidemment, le gouvernement de l'époque l'avait écarté. Mais c'est une affaire qui est terriblement choquante parce que ce qu'on a spolié, c'est les contribuables français. C'est-à-dire, c'est vous, et puis la dame qui passe, c'est eux dans la poche de qui on est allé prendre l'argent de cet arbitrage stupéfiant. L'État avait le devoir de se porter partie civile et l'État a le devoir de présenter de la manière la plus efficace un recours pour que le recours réussisse.
François Bayrou au micro Europe 1 de Stéphane Place. Du nouveau dans l'affaire Cahuzac, un témoin dans cette enquête affirme disposer d'une liste d'une quinzaine de noms d'anciens ministres ou d'actuels ministres détenteurs d'un compte en Suisse. Cet ancien cadre de l'établissement financier suisse Rail a confié à nos confrères de l'AFP que Jérôme Cahuzac n'était qu'un fusible. Pierre Condamin-Gerbier s'est exprimé juste avant son audition à l'Assemblée par le député socialiste Yann Gallu, rapporteur du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale. Pierre Gattaz, prochain président du MEDEF, le patron de Radial, entreprise spécialisée dans les connecteurs électroniques, a réussi à rallier ses deux principaux concurrents, Geoffroy Roux-de-Bézieux et Patrick Bernasconi. Dans un communiqué commun, les trois hommes ont expliqué que l'urgence de la situation les avait convaincus à se rassembler. La réforme du ferroviaire n'est pas encore écrite et elle ne vise pas la libéralisation du rail. Frédéric Cuvillier, le ministre délégué au transport, a voulu rassurer les cheminots en pleine grève. Mouvement suivi par plus de 33% du personnel, 68% chez les agents de conduite et 70% pour les contrôleurs. Comptez jusqu'à demain matin 4 TGV sur 10 en moyenne. Tous les détails sur notre site europe1.fr. Dans l'actualité également, le dernier adieu à Pierre Mauroy, 2 jours après la cérémonie officielle des Invalides. C'est sa ville qui lui a rendu hommage ce matin. De nombreux Lillois étaient présents, tout comme le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Lionel Gougelot, vous avez vécu cette cérémonie pour Europe 1, une cérémonie pleine d'émotions.
Oui Céline, cette matinée d'hommage, eh bien, elle a commencé à 10h avec les sirènes de la ville qui ont appelé les habitants à respecter une première minute de silence.
C'est assez émouvant et je pense que pour nous c'est important d'être ici pour la partager tous ensemble. Puis voilà, oui, effectivement, on réalise qu'un grand homme est parti.
C'est comme si on perd un proche, quoi. Quelqu'un de cher, quoi. Quelqu'un qui a compté pour nous, quoi. On peut dire de plus d'être là avec son cœur, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on va le laisser partir, quoi.
Puis c'est l'air du Temps des cerises joué par le premier violon de l'Orchestre national de Lille qui résonne dans le grand carré de l'Hôtel de Ville. Aux côtés de Gilberte, l'épouse de Pierre Mauroy, il y a là Jean-Marc Ayrault, les présidents des deux assemblées, quelques-uns des ministres du gouvernement Mauroy de 81 aussi, et Martine Aubry qui remercie celui qui, dit-elle, lui a fait le cadeau de la choisir pour lui succéder à la mairie de Lille.
Il y a une période où beaucoup de Français doutent de la politique. Pierre Mauroy nous a montré qu'on pouvait allier une vision, des rêves, des valeurs, mais aussi une action et du réalisme. Merci Pierre. Ne t'inquiète pas, on continue.
Et c'est juste au pied du beffroi de l'Hôtel de Ville que les honneurs militaires sont rendus à l'ancien maire devant plusieurs dizaines d'anonymes massés derrière les barrières de sécurité. Et finalement, c'est sous les applaudissements que le corbillard de Pierre Mauroy quitte la place de la mairie.
Reportage signé Lionel Gougelot. Merci Lionel. Et donc à 14h30, les funérailles débuteront à la cathédrale Notre-Dame de la Trail. L'inhumation au cimetière de l'Est se déroulera dans l'intimité familiale. Plus de 12 000 personnes manifestent en Grèce. Grève générale contre la fermeture de la radio-télévision publique. La patience touche à sa fin. Ce sont les mots du Premier ministre turc Erdogan qui a lancé un dernier avertissement aux manifestants pour qu'ils évacuent le parc Gezi d'Istanbul. Mère, père, s'il vous plaît, retirez vos enfants de là, a dit le chef du gouvernement lors d'un discours à Ankara. Le temps pour cet après-midi, toujours beaucoup de pluie, aucune région n'est épargnée. Les averses arrivent par le sud-ouest et traversent la France. Température en légère baisse de 15 à 31 degrés tout de même dans le sud.
Elle avait raison de nous dire, Valérie Darmon, que c'était l'été hein, qu'il arrivait. Effectivement,
il arrive
quand
demain,
on vous entend.
Il arrive demain.
Et demain. Merci Céline Kallmann, à tout à l'heure, 14h. Très bon après-midi avec Franck Ferrand sur Europe.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ninon L'Enclos ou la liberté, c'est le titre d'une pièce d'Hippolyte Wouters, en ce moment à l'affiche du théâtre des Mathurins, avec Cyrielle Claire dans le rôle-titre. Une pièce contemporaine, pourtant écrite en alexandrin, de quoi ravir évidemment Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Avouez qu'il n'est pas fréquent de nos jours d'écrire une pièce entière en alexandrin. Et je précise, en beaux alexandrins, bien charpentés, bien balancés, avec toujours en filigrane un humour subtil, celui d'Hippolyte Wouters. Vous avez vu le jeu de mots sur le sous-titre, l'enclos ou la liberté, tout est de cette eau-là. L'auteur Hippolyte Wouters et la comédienne principale, Cyrielle Claire me font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui.
Alors l'héroïne de la pièce, on l'aura compris, c'est Ninon de L'Enclos, la plus raffinée des courtisanes du siècle de Louis XIV.
Oui, et pour évoquer le destin si singulier de Ninon, j'ai demandé à Joëlle Chevet de nous rejoindre. Elle est chez First l'auteur d'un ouvrage sur les grandes courtisanes et elle a bien des choses à nous apprendre sur cette grande dame du grand siècle.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Certains laissent un nom dans l'histoire, d'autres y laissent un prénom. C'est le cas de Ninon. Femme légère et cependant femme de tête, née en 1620, donc à l'aube du grand siècle, et qui fut, elle y tenait, la femme d'un seul amour, à la fois. Intelligente, nous dit le cher André Castelot, pétrie de grâce, l'esprit vif, gaie, rêveuse, parfois avec un soupçon de mélancolie qui ne nuisait pas à son charme. Ninon vivait entourée d'hommes qui tous aspiraient à lui plaire. Alors il faut dire qu'une certaine hiérarchie s'était établie. Il y avait les payeurs qui entretenaient Ninon en échange d'une main à presser ou d'un petit baiser dérobé. Il y avait les martyrs. Alors ceux-là, ils n'étaient ni riches ni séduisants et ils n'avaient qu'à se languir pendant des années en fréquentant son salon. Et puis, donc, il y avait l'élu du moment. Et quand je dis du moment, ce pouvait être un soir, une semaine, quelques mois. Jamais davantage. Voltaire a écrit « On la quittait rarement, mais elle quittait fort vite et restait toujours l'amie de ses anciens amants. Elle regardait l'amour comme un plaisir qui n'engageait aucun devoir et l'amitié comme une chose sacrée. » L'amitié comme une chose sacrée, voilà peut-être une des clés de l'existence de Ninon de L'Enclos. Et d'ailleurs, Jean Goudal nous confirme cela. Jean Goudal était son biographe de l'après-guerre. Sa bio date de 1948. « Ninon, écrit-il, savait donner de tels charmes qu'en passant de l'alcôve au fauteuil platonique, il s'imaginait avoir de l'avancement. Autant dire qu'à défaut d'être un homme, d'être une honnête femme, selon l'acception habituelle, Ninon avait choisi de vivre en honnête homme. » Du reste, elle disait, elle, « J'ai résolu de vivre en homme ». Nous allons, dans le cours de cette émission, faire le tour des nombreux attraits de Ninon. Il semble que le principal ait été non son physique, mais sa conversation. Charmante, désintéressée, fidèle, secrète, sûre au dernier point, si l'on en croit Saint-Simon. Saint-Simon était pourtant avare de compliments. Le petit duc ajoute « Tout se passait chez Mademoiselle de L'Enclos avec un respect et une décence extérieure que les plus honnêtes princesses soutiennent rarement avec des faiblesses. Elle eut de la sorte pour amie tout ce qu'il y avait de plus élevé, de plus huppé à la cour, tellement qu'il devint à la mode d'être reçu chez elle et qu'on avait raison de le désirer pour les liaisons qui s'y formaient. Et Saint-Simon nous dit « Jamais ni jeu, ni ris élevé », c'est-à-dire qu'on ne riait pas à gorge déployée, « ni dispute, ni propos de religion ou de gouvernement, beaucoup d'esprit et fort orné, des nouvelles anciennes et modernes, des nouvelles de galanterie, et toutefois sans ouvrir la porte à la médisance », tout y était délicat, léger, mesuré et formait les conversations qu'elle sut soutenir par son esprit et par tout ce qu'elle savait de faits de tout âge. Et c'est vrai qu'elle était une sorte de réservoir d'anecdotes et d'historiettes, cette Ninon. Quel hommage, hein, quand même, sous la plume de Saint-Simon, langue de vipère, s'il en fut jamais. Ce qui devait surprendre tous ces gens de cour, c'est en somme la simplicité de cette femme de goût qui préférait l'esprit au titre et la grâce aux richesses. Jusqu'à un certain point, sans doute. On connaît la belle anecdote du duc de Vendôme, fils naturel d'Henri IV, auquel Ninon avait refusé ses charmes et qui lui avait adressé cet épigramme. « Indigne de mes feux, indigne de mes larmes, je renonce sans peine à tes faibles appas. Mon amour te prêtait des charmes ingrates que tu n'avais pas. » Alors Ninon reçoit ce billet un peu interloqué, elle le retourne et elle écrit au dos « Insensible à tes feux, insensible à tes charmes, je te vois renoncer à mes faibles appas, mais si l'amour prête des charmes, pourquoi n'en empruntes-tu pas ? » Vous l'aurez compris, c'est d'esprit autant que d'affaires coquines que nous allons parler aujourd'hui. Chez Ninon, l'un ne va du reste jamais longtemps sans l'autre. Émile Magne racontait l'histoire suivante. La belle ayant repéré au cours la reine le séduisant et blond comte de Navailles, le convie à souper chez elle. Alors tout se passe à merveille. Leur venue, Ninon conduit le jeune homme et l'abandonne un quart d'heure dans sa chambre, le temps d'aller se préparer. Seulement quand elle revient, moins habillée que déshabillée, elle retrouve le beau Navailles nu mais endormi. Au matin, quand il s'éveille, l'invité indélicat est assailli par un jeune chevalier qui le menace de son épée. « Ah monsieur !» s'écrie Navailles, « je suis homme d'honneur, je vous rendrai justice !» Et là, il éclate de rire parce qu'il vient de comprendre que son rival n'est autre que Ninon qui, pour rire, a revêtu les habits du dormeur. Hélas, il semble que Navailles, au réveil, n'ait guère été plus vaillant que la veille. Et Ninon, disait-elle, jura de ce jour de préférer les bruns aux blonds. À quoi cela tient-il ?
Jordi Savall sur Europe 1 avec Canary, extrait du divertissement du roi, musique de Jean-Baptiste Lully. A tout de suite pour Au cœur de l'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Joël Chauvet, historienne spécialiste de la Société d'Ancien Régime, auteur notamment des Grandes Courtisanes chez First Edition, Hippolyte Wouters, avocat dramaturge, sa pièce de théâtre Ninon, L'Enclos où la liberté se tient, au théâtre des Mathurins, avec Cyrielle Claire qui interprète Ninon Franck.
Bonjour à tous les trois, merci chère Cyrielle d'être avec nous. Vous étiez hier soir sur scène, vous y serez encore ce soir évidemment, vous incarnez Ninon et je pense qu'elle n'a jamais été si bien incarnée entre nous et avec ce phrasé extraordinaire qui appartient à la langue du grand siècle et qui appartient aussi un peu, disons-le, à Hippolyte Wouters, car vous maîtrisez cet alexandrin comme le disciple cornélien que vous êtes, Hippolyte.
Depuis que je suis petit, je suis métromane. C'est-à-dire que dès que je vois un titre de journal ou une publicité où il y a 12 pieds, je les repère tout de suite. C'est une espèce de vieux tic, je sais pas.
Est-ce qui vous permet d'écrire ces pièces en alexandrin qui sont, il faut le préciser pour nos auditeurs, car j'espère qu'ils seront nombreux à se précipiter au théâtre des Mathurins, vos vers ne sont pas du tout datés. C'est-à-dire que tout ça est en alexandrin, mais ça coule de source, c'est parfaitement, c'est pas Joël Chevet qui va me contredire, je vois qu'elle approuve.
Non, tout parce ça, que j'ai vu la pièce hier soir, et j'ai trouvé la langue extrêmement convaincante, très fluide, c'est très joli à écouter.
Alors cette Ninon la maniait mieux que quiconque la langue. Vous me disiez juste avant que ne commence cette émission qu'elle était assez intransigeante avec ses amants qui n'avaient pas le droit de se montrer insatisfaisants et également avec les hommes d'esprit. Il fallait vraiment être au niveau
pour fréquenter Ninon de l'Enclos.
Oui, je crois que c'est vraiment ce qui la caractérise et qui fait qu'elle est une grande courtisane. C'est qu'elle ne dissocie pas les jeux de l'amour et les jeux de l'esprit. D'autant plus qu'elle fréquente quand même la haute société de l'époque, hein, une aristocratie qui est quand même cultivée, même si on ne se pique pas de l'être. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est exigeante dans ces deux domaines et qu'il y a une petite anecdote célèbre en particulier avec le duc d'Enghien, futur grand Condé, qui est un de ses clients, un de ses payeurs également, et non pas de ses caprices, c'est-à-dire qu'elle le reçoit à des périodes différentes et où il a une fois, en effet, il avait d'ailleurs la réputation de ne pas être extrêmement puissant sur le plan viril, et à la suite d'une joute un peu inaboutie, elle reprend cette anecdote qui disait que les hommes poilus sont soit des guerriers extraordinaires, soit des amants très puissants, et donc
voir les deux.
Jamais les deux. Et donc du coup, à la fin de cet épisode, elle lui dit: Monseigneur, faut-il que vous soyez fort?
C'était quand même... On peut dire que certains mots avaient le tranchant d'une lame, de taille et d'estoc, si je puis dire. Le bel esprit faisait vraiment partie d'une forme d'hygiène du XVIIe siècle.
Je crois que c'est vraiment le début de ce qu'on n'appelait pas encore les salons, mais où... Alors, on n'est pas dans
le salon
de Ninon de l'Enclos, c'est tout à fait autre chose. Sauf à la fin de sa vie, c'est vrai. On est dans des salons, là, qui sont quand même plus galants et où elle reçoit quand même au départ uniquement des hommes. Donc sa culture, elle se l'est faite au contact des hommes.
Et précisément, elle n'était pas précieuse, hein, Cyrielle, non, Claire. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une femme qui avait la simplicité, le naturel, la vérité comme guide. Ça, il faut le dire. Et c'est peut-être ce qui, d'ailleurs, la rend tellement proche de nous.
Mais les précieuses la considèrent comme faisant partie de leur monde.
Comme une d'entre elles, oui.
Voilà. Et elle dit que c'était des jansénistes de l'amour. Elle partage avec les précieuses le refus du mariage. Mais autrement, je vous laisse la parole.
Oui, c'est vrai que c'est une femme fascinante. Une joie, un privilège de l'incarner sur scène tous les soirs. Parce que j'ai découvert une femme très moderne, libre, très indépendante. Elle, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, elle était totalement en maîtrise de sa vie.
C'est ça.
Et elle était vraiment en harmonie avec elle-même. Et je crois que sa vérité, dont vous venez de parler, venait de là. Parce que elle avait une philosophie de la vie et elle vivait à la hauteur de ses pensées, de ses aspirations. Et puis elle maîtrisait aussi, en tant que courtisane, puisqu'elle invitait les uns au plaisir, les autres à la patience, elle maîtrisait totalement les rapports avec ses amants.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Jordi Savall sur Europe 1 avec le Menuet, c'est un divertissement du roi, une musique de Jean-Baptiste Lully.
Et oui, pour le grand divertissement royal de 1668 en l'occurrence. Alors, il faut expliquer, vous le faites d'ailleurs en quelques vers, vous Hippolyte Wouters, que la jeunesse, l'enfance de Ninon n'a pas été très ensoleillée, hein, c'est le moins qu'on puisse
pas
dire.
Du tout. Elle avait un père qu'elle aimait beaucoup, qui était un homme qui paraît-il était cultivé, drôle, charmant, et une mère pieuse. Et malheureusement, le père rigolo, il est parti et elle est restée avec la mère pieuse.
C'est un drôle de personnage, le père, il faut le dire, Joël Chevet.
Oui, alors en fait, c'est un petit noble, peut-être même pas noble du tout, originaire d'une famille de Touraine, mais qui a des protecteurs puissants, dans la mesure où c'est un très bon luthiste. Donc c'est un musicien, et Ninon héritera de ce goût pour la musique. C'est aussi un homme volage. Donc Ninon va vivre en effet dans une famille qui est très agitée par, évidemment, les facéties du père, qui a une maîtresse, Lucrèce de Gouges. Cette liaison fait scandale, et se termine par l'assassinat par donc le père de Ninon, par Henri de Lenclos, qui assassine une des personnes qui avait contribué à ce qu'il soit condamné pour adultère. Et donc là, il est banni du royaume. Il s'exile pendant très très longtemps en Dauphiné et Ninon a 10 ans. Donc il faut peut-être relativiser là du coup l'influence de son père sur Ninon, qu'elle adorait en effet.
Et voilà, c'est ça que j'allais dire. Quel est son regard? C'est un regard positif. Hein. Elle,
voilà,
c'est presque un modèle pour
positif,
elle.
Positif. Et quand elle va aller à Lyon dans les années 1650, où à un moment elle se retire à Lyon et elle essaiera à ce moment-là de revoir son père qui est à la frontière. Donc voilà, mais en fin de compte, il y a une influence quand même qu'il faut relativiser de son père sur elle, en particulier sur le plan intellectuel, où sa culture vient quand même d'ailleurs.
La Ninon que nous présente Hippolyte Wouters est extrêmement belle, évidemment, puisque oui, c'est Cyrielle Clerc qui l'interprète. Est-ce que dans la réalité, elle était si belle que ça? Qu'est-ce qu'on en sait de ça, Hippolyte?
Mais il paraît qu'elle avait beaucoup de charme. Il avait beaucoup d'atouts, mais qu'elle n'était pas vraiment ce qu'on appelle belle. Et elle dit elle-même, je crois, dans une lettre, maintenant qu'elle soit apocryphe ou réelle, qu'elle enviait la beauté de Madame de Maintenon. Mmh. Et qui, selon elle, était plus belle qu'elle, mais qui n'avait pas cette espèce de, je dirais, de charisme.
Alors voilà, c'est ça, elle avait un charme.
C'est plutôt, son visage n'était peut-être pas aussi régulier qu'on les aimait à l'époque, mais je pense qu'elle était par contre très bien faite et qu'elle s'est conservée très longtemps de ce point de vue.
Il paraît qu'elle se lavait tous les jours, ce qui a fait dire à certains que c'était une femme de mauvaise vie.
Autre temps, autre mœurs. Elle est remarquée. Elle est très jeune. Hein.
Oui. En fait, elle fait ses débuts dans les salons du Marais, où sa mère dévote en effet, mais qui sait vendre les charmes de sa fille quand même. Hein. C'est une dévote, mais qui a su profiter.
Elle la vend, c'est le cas de dire, un conseiller au Parlement de Paris,
elle
du reste.
Elle la tout à fait à ce conseiller Jean Coulon, contre une rente, après une affaire, un jeune homme dont elle était tombée amoureuse et dont la mère pensait qu'elle l'épouserait. Ça ne s'est pas fait. Donc elle la vend à ce conseiller au Parlement, qui est assez débauché, et qui donc va l'initier, là, pour le coup, et il faut bien le dire, au métier. Puisque, bon, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est une prostituée.
Eh oui, c'est ça.
Comme on l'entendait.
Au métier de l'amour.
C'est une prostituée. Elle vit de ses charmes et c'est comme ça qu'elle va réussir. Alors, une prostituée avec, c'est pour ça que c'est une grande courtisane, avec cette culture, cette autonomie, cette indépendance,
et puis
qui est la caractéristique
des grandes
courtisanes.
Et puis avec une évolution au fil de sa vie, bien
entendu.
Tout
à fait, on y reviendra, je pense.
Alors, on va l'apprendre grâce au texte d'Hippolyte et à la voix de Cyrielle. Nous allons l'apprendre sur le tard, justement, lorsqu'elle commence à faire le bilan de sa vie. C'est le thème même de la pièce, puisque la construction dramatique repose précisément sur deux flashbacks qui sont deux moments très importants de la vie de Ninon de Lenclos.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et avec Franck et ses invités sur Europe 1, nous plongeons maintenant dans la pièce d'Hippolyte Wouters.
Et oui, je vous propose, et c'est très gentil à Cyrielle Clerc de se prêter à l'exercice, d'entendre un extrait de cette pièce. Alors je vais jouer, moi, très modestement, l'abbé, et bien entendu, Ninon, c'est Cyrielle. Si vous le voulez bien, racontez-moi, Ninon, en deux mots commençant, la femme que vous êtes, pour peu que la question ne soit point indiscrète.
Pas vraiment, cher abbé. J'ai très souvent pensé à m'ouvrir à quelqu'un de mon très long passé. Vous avez devant vous une humble pécheresse. J'aurais le sentiment de me rendre à confesse. Et puisque du péché je vous ai préservé, vous pourrez sans rougir jouir de mes péchés.
J'écoute, mon enfant.
Mon père, je m'accuse, en premier lieu, d'avoir la mémoire confuse. Si je vous disais tout et ne vous passais rien, nous y serions encore après demain matin. Je vous résume, donc, mon passé innombrable, et vous raconterai ce qui est racontable. Car j'aime beaucoup mieux, et ce depuis tout temps, les contes que je compte aux contes que je rends.
Poursuivez, mon enfant.
J'ai, pendant mon jeune âge, dû vivre partagé entre un père volage et une mère pieuse. De mes parents, il faut bien l'avouer, mon père était le plus doué. Il jouait bien du luth. Il m'apprenait des rôles. Il s'occupait de moi sans cesser d'être drôle. Hélas, un beau matin, j'ai dû le voir partir et jamais il n'a pu ou voulu revenir. J'achevais dans le cours des plaintes et des larmes, et comme fille unique, une enfance sans charme, une jeunesse morne, et je me promis fort, dès que je deviendrai maîtresse de mon sort, de mener à mon gré une joyeuse vie, fort loin des conventions et sans bigoterie. Je m'étais par ailleurs en même temps promis de ne faire jamais quelque tort à autrui. Je ne pouvais trouver pour un dessein semblable qu'au bout de mon seul bras une main secourable. C'est donc ce que je fis, et j'eus l'heure de trouver un monsieur fort habile à me dépuceler. J'apprenais mes leçons, je faisais mes devoirs, et j'en sus à peu près ce qu'il en faut savoir.
On peut aimer l'amour, mais craindre Dieu sur terre, et haïr le péché, tout en aimant le faire.
Mon père, en vérité, ce n'était pas le cas. On me parlait de Dieu, mais je n'y croyais pas. Un jour, étant enfant, j'ai même été puni pour une réflexion qu'on qualifia d'impie. C'était Vendredi Saint. Tous, de chagrin confit de la crucifixion et de la mort du Christ, se lamentaient tout haut. Moi, au lieu de me taire, je leur dis n'avoir pas de raison de s'en faire. Pourquoi, dis-je, ces pleurs, si vous savez déjà que, dans 2 ou 3 jours, il ressuscitera. Ce propos provoqua un tollé général, et l'on prophétisa que je finirais mal.
C'était avoir fort tôt un esprit hérétique, sans être toutefois dépourvu de logique.
Merci de votre avis. Je me trouvais, enfin, contrainte, sans appui, d'affronter mon destin. J'étais sans relation, et j'étais sans fortune. Il fallait donc saisir l'occasion opportune de rencontrer quelqu'un qui voulut bien m'aider à trouver un logis et à me le payer. Vous pouvez deviner que cette perspective impliquait de ma part d'être assez peu rétive. Et que pour obtenir des avances de fonds, j'ai accepté beaucoup d'avances à Ninon. Une fois cependant que je fus installée, ceux qui m'entretenaient ne m'ont plus approchée. J'avais ceux que j'aimais, j'avais mes bons apôtres. Je me donnais aux uns, je recevais des autres. Si j'étais courtisane aux yeux des ignorants, mes amants se devaient d'être mes courtisans. Ils devaient me séduire et ils devaient me plaire. L'amour seul leur donnait le droit de me le faire.
Votre comportement ferait presque approuver ce qui n'en est pas moins tout à fait dépravé.
La reine Anne, un beau jour au fait de mes excès, m'avait fait adresser des lettres de cachet. Le couvent de mon choix, telle était la sentence. Et je fus condamnée à faire pénitence. Comme j'avais le choix, je dis que mon dessein était de m'enfermer avec les franciscains. La reine, me dit-on, prit le parti d'en rire, et c'est par ce bon mot que j'évitais le pire. De la sorte, je pus, sans discontinuer, vivre, sans qu'on ne cherche à m'en dissuader. Mais cette affreuse vie eut au moins le mérite de me faire entourer par des amis d'élite. Dès que j'avais mis fin à une relation, les conduits devenaient l'ami de la maison. Nous avions un commerce et plus noble et plus vaste. Il est d'autres vertus que de n'être point chaste. S'il est bien un devoir que l'Évangile apprend, c'est d'aimer le prochain, comme le précédent.
Merci infiniment, Cyrielle Claire.
Sarah Brightman sur Europe 1, sur une musique de Jean-Baptiste Lully, La Choc et Opéranga. À tout de suite sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous parlons aujourd'hui sur Europe 1 d'une grande courtisane, la plus grande de toutes, par l'esprit et par le charme, Ninon Delenclos. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire sur Europe1.fr et la page Facebook de l'émission.
Oui, nous attendons vos messages. Vous avez raison de le souligner, Julia. Alors, on ne sait pas exactement combien la dame aura eu de liaisons. Je parle de vraies liaisons, hein. Je ne parle pas d'amants comme ça. Vous n'avez pas fait les comptes, Hippolyte Wouters?
Oh non. Vraiment, j'ai pas pu suivre. Je n'avais qu'un boulier compteur à ma disposition et non, je sais qu'elle en avait pas mal. D'ailleurs, au-dessus de son lit, il était, paraît-il, marqué « Fais le bien ». Laissant, soupirant le soin de savoir
de mettre
s'il
ou non
un tiret. Après le fait-le.
Mais quand alors, on les appelait,
ses amants, on les appelait, ou ses soupirants, ou ses amis, les oiseaux des Tournelles. Vous savez qu'elle habitait rue de Tournelles.
Oui, oui.
Et donc, c'était des oiseaux de Tournelles.
Alors, oui, des Tournelles.
Il y a un de ses amis qui avait fait ses quatrains. Je ne fuis plus oiseau des champs, mais de ces oiseaux des Tournelles qui parlent d'amour en tout temps et qui plaignent les tourterelles de ne se baiser qu'au printemps.
Parmi ses amants, il y a eu parfois le père et le fils. On pense évidemment au mari et Sévigné, au fils de Madame de Sévigné.
Voilà, à 20 ans de distance. Donc le père Henri de Sévigné en 1651, donc avant le grand amour qu'elle a eu quand même, il faut le dire, pour le marquis de Villarceau, et qui a duré quand même presque 5 ans. Donc elle a quand même eu là une liaison un peu plus longue. Donc Henri de Sévigné, comme elle le lui disait et comme elle disait aux autres, 3 mois pour moi c'est une éternité. Et alors c'était drôle parce qu'on disait à l'époque qu'en fait ses amants servaient par quartier, comme les officiers de la cour qui servaient un trimestre. Oui. Voilà. Et donc Henri de Sévigné a fait ses 3 mois, a été conduit et ensuite a pris une autre maîtresse qu'on appelait Lolo dans tout Paris et pour laquelle il a eu un duel dans lequel il a été tué. Donc l'affaire s'est terminée tragiquement. Et ensuite, 20 ans plus tard, donc, elle a eu également le fils de Madame de Sévigné, donc Charles. Et c'est le seul moment d'ailleurs où Madame de Sévigné parle de ce qui s'est passé avec le père, où elle dit simplement à Madame de Grignan, il a gâté.
Elle parle à sa fille père. De son propre père. Hein,
donc. Voilà, mais parce qu'elle parle en fait de l'histoire de son fils qui lui raconte toute son aventure avec Ninon de l'Enclos et en même temps avec la Champmêlée, qui est l'actrice célèbre qui va jouer Racine.
Alors vous avez cité, Joël Chevet, le nom d'un des grands amours de Ninon, qui sera le marquis de Villarceau. C'est le cœur même de la pièce qu'interprète Cyrielle Clair. Voilà. Ce marquis de Villarceau sera aussi l'amant d'ailleurs d'une certaine Françoise d'Aubigné, oui. Veuve Scarron et future marquise de Maintenon.
Alors, pas exactement dans le même contexte que la pièce, oui. Puisque l'affaire...
J'ai fait quelques enfants dans l'histoire.
L'affaire avec Ninon est terminée. Et c'est elle-même qui, à partir de 1656, va prêter sa fameuse chambre jaune au marquis de Villarceau et à Françoise Scarron, à l'époque, qui est veuve Scarron, et va prêter sa chambre pour leurs ébats. Donc, il n'y a pas eu de jalousie au sens propre du mot, et elle a logé très longtemps après le veuvage de Madame Scarron, elle l'a logé chez elle justement pendant plusieurs mois.
Alors, il ne faudrait tout de même pas avoir de toute cette période et de la vie de Ninon une image tout à fait idyllique. On est dans un siècle qui réprouve les écarts, et évidemment, elle va subir à plusieurs reprises la contrainte, cette Ninon. Sa vie fait scandale, disons-le.
Tout à fait, c'est bien de le remettre en effet dans ce contexte, parce qu'elle fait partie de ces grandes courtisanes qui n'ont pas pu vivre comme elle l'entendait. On n'est pas sous le Second Empire. Donc on est
même si
au siècle
Second Empire
de la Réforme catholique.
Va beaucoup parler de Ninon, et pour cause hein, d'ailleurs, pour cause. Comme pour donner
tout
des lettres
fait.
De noblesse aux grandes cocottes du
tout
Second
à fait.
Empire.
Et ouais. celle de la Grèce antique aussi,
c'est ça,
sont
oui.
très
les
souvent citées à ce moment-là. Ouais, ouais. Oui, on est dans le contexte de la Réforme catholique, c'est-à-dire que Ninon a très bien compris, certes elle est libertine, comme on l'était au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'elle est sceptique sur le plan religieux. Libertine, c'est le libertinage de Saint-Évremond, par exemple, qui est un de ses amis et à qui elle va écrire très régulièrement. Et elle sait très bien, par l'exemple même de Saint-Évremond qui est exilé, pour avoir critiqué Mazarin, elle sait très bien les risques qu'elle court. Donc on est là quand même dans une stratégie. On est dans une stratégie sociale où il faut vivre tout cela sans scandale, dans la plus grande discrétion. Et c'est pour ça qu'en fait, Ninon, elle a toutes les qualités que vous avez pu évoquer, mais tout cela se fait, je dirais, à bas bruit. Anne d'Autriche veille, la régente est là, et vous savez qu'elle a été exilée pendant presque un an. D'abord aux Madelonnettes, où on envoyait les femmes repenties, et ensuite au couvent de Lagny, où elle a rencontré, là c'est un des grands épisodes de la vie, mais je précède peut-être ce dont vous vouliez parler, où elle a quand même reçu Christine de Suède, la reine de Suède, qui a voulu visiter Ninon de l'Enclos au grand
dépit. C'est l'apothéose de Ninon.
Oui, au grand dépit de toutes les dames de la cour. Madame de Motteville le raconte dans ses mémoires en disant « c'est la seule femme qu'elle a voulu rencontrer
c'est
en
incroyable.
France. »
Et pour cause, je crois qu'elles étaient toutes les deux des sœurs de lutte.
Au couvent de Lagny, il y aurait peut-être une pièce
ça ferait une
à faire
jolie
aussi,
pièce, ça, pour vous, Hippolyte.
Aussi là-dessus, parce qu'on peut imaginer quel a été ce dialogue un peu surréaliste entre ces deux femmes.
Mais elles étaient toutes les deux des militantes pour l'égalité des sexes.
Oui, et puis il y a une forme de...
Alors, c'était ça qui les rejoignait. Et du reste, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, Franck, il y avait une très jolie formule où elle disait « Je vois que nous, les femmes, on nous a réservé tout ce qu'il y a de plus frivole et que les hommes se sont gardés les choses essentielles. Eh bien, de ce moment, je me fais homme. » Voilà. Et elle avait. Et je crois que
c'est exactement le même type de réaction qu'avait eu quelques années plus tôt la reine de Suède, Christine, qui d'ailleurs refusait d'être cantonnée dans ce rôle. Alors nous avons raconté ici même à ce même micro toutes les frasques de Christine et notamment ce crime de sang invraisemblable perpétré dans la galerie des cartes de Fontainebleau,
qui avait dénoncé en effet son alliance avec les Français.
Mais
contre les
parmi Espagnols. On va dire parmi les foucades, parmi les lubies qu'aura pu avoir Christine de Suède pendant ce voyage où elle a donné beaucoup de fil à retordre au protocole français, il y a eu effectivement cette visite à Ninon de l'Enclos, ces deux grandes femmes du grand siècle qui se rencontrent. Je dis que si Hippolyte Wouters ne veut pas écrire cette pièce-là, je me la réserve après tout.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et jusqu'à 14h, nous nous intéressons à Ninon de l'Enclos, Franck.
Et oui, un de nos auditeurs nous demande comment se procurer le texte de la pièce, et notamment le texte que vient d'interpréter Cyrielle Claire à ce micro, L'Enclos ou la liberté, sur ce personnage de Ninon. Eh bien, il faut aller au théâtre pour avoir le texte. Il est en vente, évidemment, mais au théâtre même. C'est une pièce, il faut dire, Cyrielle Claire, comment elle est construite. On voit une Ninon âgée sur la fin de... Elle est donc retirée du monde, en quelque sorte, et elle parle avec ce confesseur, en quelque sorte, et très vite, on est projeté dans une autre époque, et ce sont des flashbacks qui apparaissent sur la scène, un peu comme dans l'illusion de Corneille, si l'on veut, il y a comme ça des évocations, et on fait des sauts dans le temps.
Voilà, exactement, puisque la pièce se déroule sur trois périodes, trois moments importants de la vie de Ninon, et donc la construction de la pièce est assez intéressante, c'est presque cinématographique, puisque tout d'un coup, on est projeté 60 ans en arrière et que Ninon, ça c'est merveilleux pour les actrices, on adore.
Oui, c'est magnifique, c'est un rajeunissement.
Une fraîcheur comme ça, immédiate.
Toute la salle fait « Oh !»
Si, oui, mais il n'y a qu'au théâtre qu'on voit ça. Mais bon, mais ça vaut déjà la peine.
Beaucoup plus de facilité pour avoir l'âge plus jeune que plus vieille. Parce que là,
c'est gentil. Voilà, et après on la retrouve dans l'épilogue, voilà, à nouveau, en train de faire cette confession. On le raconte, sa vie à cet abbé énamouré, qui est aussi un de ses soupirants, un martyr, parce que lui, il n'aura rien.
Abbé et martyr, finalement, c'était sa destinée. Alors, ce qui est assez assez frappant, et moi je l'avais oublié avant d'aller voir la pièce, c'est, qui est un régal, parce que moi aussi j'y étais, moi aussi je trouvais ça formidable, c'est qu'en fait, Ninon est morte très tard, en 1705 seulement. On imagine toujours Ninon...
Oui, elle a vécu longtemps, 83 ans.
On a des doutes sur sa date de naissance, mais
pas sur la date,
de sa mort. Elle est morte en 1705, donc elle a pratiquement 80 ans.
Et donc là, je disais, elle s'est retirée en quelque sorte, mais elle continue à recevoir.
Alors elle continue à recevoir et elle reçoit différemment. Évidemment, puisqu'elle a quand même pris sa retraite, je dirais, sur le plan professionnel. C'est une femme qui de toute façon a toujours eu le sens de ses intérêts. Et quand elle s'est rendue compte qu'elle avait amassé suffisamment de rentes, qu'elle était bien dans son petit hôtel de la rue de Tournelle, dans un confort qui n'était pas d'ailleurs d'un grand luxe, mais d'un confort, on va dire, plutôt bourgeois. Et où là, par contre, elle reçoit des femmes qu'elle n'aurait jamais pu fréquenter à l'époque où elle exerçait ce métier de courtisane. Elle reçoit la duchesse de la Feuillade, elle reçoit la marquise de Sablé, la marquise marquise de Savelière, Madame de Coulanges, qui est la cousine. Alors, elle reçoit pas Madame de Sévigné, quand même, parce que Madame de Sévigné la fréquente pas, mais à toutes les nouvelles.
Ce qu'on vient de raconter,
voilà,
c'est
elle a toutes les nouvelles par sa cousine, Madame de Coulanges. Et c'est comme ça qu'on trouve tout ça dans la correspondance, où Madame de Sévigné grince un peu en disant non seulement elle a reçu tous les hommes, mais maintenant elle a toutes les femmes.
Et Madame de Sévigné pourrait grincer parce qu'elle a une concurrente, ça ne peut pas le deviner devant la postérité, puisque Ninon devient femme de lettres, il faut le dire, ça.
Oui, alors il ne nous reste pas grand-chose.
Hein. Non.
La plupart, bon, les mémoires dont nous parlions tout à l'heure sont des mémoires apocryphes, écrites par Brett. Il nous reste quelques lettres qu'elle a échangées avec Saint-Evremond, qui était exilé en Angleterre avec une des Mazarinettes, Hortense. Donc voilà, et il y a une correspondance donc avec Saint-Evremond et sur le mode, en effet, très très libertin, où il l'encourage, il l'a pas vue depuis des décennies, mais il lui dit toujours qu'elle est très belle et que si ça va pas, si elle est nostalgique, parce qu'elle a dû... Elle vieillit quand même difficilement, elle regrette. Et donc, il lui dit, bah, vous avez qu'à manger plus, remplacer la chair par la bonne chair. Elle n'est pas convaincue. Mais petit à petit, donc en effet, son cercle se restreint. Et on a de ses nouvelles par la correspondance de Madame de Sévigné, où on apprend qu'elle souffre un peu des poumons. Et voilà.
Et
donc, elle termine en... Non pas en dévote, mais en tout cas en femme sage...
Au début de cette émission, le duc de Saint-Simon nous le disait, elle était véritablement la plaque tournante de la sociabilité jusque très tard. Il fallait aller chez Ninon, on ne regrettait jamais, hein, nous dit-il, d'y être allé, tellement les rencontres qu'on y faisait pouvaient être brillantes. Elle a eu effectivement dans son salon à peu près toute la cour et toute la ville.
C'est peut-être un petit peu exagéré. Beaucoup, oui. C'est peut-être un petit peu exagéré. En tout cas, elle a eu beaucoup de ses femmes, et en particulier de ses précieuses, ou anciennes précieuses. Je pense à Marie de Hautefort, je pense à Madame de Lafayette, La Rochefoucauld, bien sûr, qui est un des rares rescapés de cette période de la Fronde. Donc, n'exagérons pas, elle n'a pas non plus toute la très haute noblesse d'épée de la cour, alors, mais un monde important.
Des hommes de lettres et d'esprit aussi, des hommes de lettres et d'esprit, des auteurs, puisque beaucoup de
Molière,
poètes, apparemment, serait venu lire son Tartuffe pour la première fois dans le salon de Ninon.
Oui.
Vous avez beaucoup pris quelques libertés avec l'histoire, Hippolyte Voutert. Vous nous la montrez carrément à Versailles, dans le salon de Madame de Maintenon, et parlant de Visante avec Louis XIV, carrément.
Ben oui, pourquoi pas. Je n'ai rien dit peut-être de vrai, mais je n'ai rien dit d'impossible.
Ouais. Je dirais que l'apparition de Louis XIV sur la scène est un des grands moments. Hein, parce que, et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est la confrontation de deux caractères quasi antagoniste, celui de Françoise d'Aubigné, de Madame de Maintenon, et celui de Ninon de L'Enclos. Ces deux femmes qui ont pu être proches à une époque incarnaient en quelque sorte deux destins vraiment très dissemblables, pour ne pas dire opposés finalement, Joël Chevet. Hein,
de volonté. Différente. Alors ouais. Là, on est avec Madame de Maintenon dans ces femmes qui ont péché et qui se sont assignées une mission vertueuse en reconvertir le roi. Donc pour Madame de Maintenon, c'est quand même la mission qu'elle s'est assignée face à une Ninon qui, et je crois que c'est là qu'elle est intéressante, qui ne renie rien de sa vie, qui est totalement authentique, indépendante.
Mais elle ne cherche pas la même chose. Il y en a elle une qui cherche pas la même chose. Le plaisir et l'autre, c'est son ambition.
Oui, non, tout à fait.
Oui, le dernier mot à l'auteur.
Mais ce qui est merveilleux, je trouve, avec Ninon, c'est qu'elle était, tout le monde l'a dit, respectueuse. Et qu'elle est devenue respectable, qu'elle était courtisane, mais qu'elle n'a jamais été courtisan.
Les grandes courtisanes, c'est l'ouvrage de Joël Chevet, donc dans cette collection Histoire chez First. Il n'y a pas que Ninon de L'Enclos, hein. Il y en a d'ailleurs deux ou trois que je ne connaissais quasiment pas, et c'est passionnant. Bien entendu, vous pouvez aller applaudir Cyrielle Claire sur la scène du Théâtre des Mathurins, dans cette pièce d'Hippolyte Voutert. Et puis, j'avais dit que je le ferais, je profite de notre atmosphère assez élégante, légère aujourd'hui, pour vous signaler que c'est ce dimanche, le 16, qu'aura lieu la plus belle réunion hippique de l'année à Chantilly. Chez le prince de Condé, dont nous parlions tout à l'heure, c'est le prix de Diane, qui est devenu le prix de Diane Longines. Et maintenant, pour avoir des infos, la billetterie, tout ça, c'est sur www.prix-de-diane.com.